Une église centrée sur l'évangile de Timothy Keller. C'est un très bon livre pour les vacances aussi. Voilà, ça permet de. Il est très très bien écrit, hein, disons avec des chapitres assez courts. Et Timothy Keller, c'est vraiment quelqu'un maintenant qui est connu dans les milieux évangéliques. Il est pasteur à New York et il a très bien compris dans quel monde nous vivons. Il a créé The Gospel Coalition, qui est Évangile 21 en France et en francophonie. Et il écrit sur la dynamique d'un ministère équilibré au cœur des villes d'aujourd'hui. Alors je l'avais lu un peu rapidement, pensant que voilà, c'est une nouvelle mode de vivre en Église. Et en fait, j'ai été interpellé en juillet quand j'ai vu ce que vous avez produit. Moi, je n'ai pas du tout participé, Michel non plus, en réécrivant l'appel de l'Église. Et en fait, dans l'appel de l'Église, à part des choses qui sont communes dans toutes les Églises, il n'apparaît plus l'aspect des familles, l'aspect de croissance individuelle, mais il apparaît des éléments qui sont spécifiques à l'Église missionnelle. Et donc là, ça m'a interpellé, je dis « waouh ». L'appel de Dieu pour le PEA, donc pour l'église d'Aubergenville, qui est orienté différemment de ce que ça l'était il y a 30 ans quand on a acquis ce bâtiment pour y créer une église. Alors je dis, là, Dieu parle, Dieu interpelle, et il faut écouter l'intention que Dieu a, puisqu'il vous l'a mis à cœur, tous en commun, et donc j'ai été interpellé par ça. Alors l'Église missionnelle, c'est quoi? C'est un peu le sujet de ces prédications. Le résumé, c'est que c'est une communauté qui vit en épousant la mission que Dieu poursuit déjà actuellement, c'est-à-dire la rédemption. Rédemption, ça veut dire rachat de la création tout entière. Autrement dit, racheter ou sauver l'humanité et toute la création, puisque la création souffre du péché que l'homme a introduit dans le monde. Donc c'est beaucoup plus large que l'homme, toute la création souffre. Et donc pour lui donner, le redonner son sens et son but originel, être à la gloire de Dieu. Le but final, c'est d'être que toute la création soit à la gloire de Dieu, puisque Dieu l'a créée. Et on voit déjà un aspect de la gloire, même si elle a pâli à cause du péché, quand on voit autour de nous la nature. Mais on voit aussi les épines et les ronces, qui n'étaient pas prévues au débarrage. Et heureusement, ils vont être éliminés lorsque nous aurons dans ce nouveau ciel, ce nouvelle terre. Alors, ça va plus loin que simplement une mission. Vous voyez, là, on a un tableau des missions. Hein. Voilà, être missionnaire, c'est aller dans des pays, d'aller dans des structures, dans des projets. Eh bien, l'église missionnelle va plus loin que juste être en mission. C'est le minimum, c'est d'être en mission. Alors, il y a d'abord une réflexion biblique et théologique qui est à la base de ces fondements. Je ne vais pas revenir sur les fondements bibliques puisque je les ai rappelés dans les sermons précédents. Je veux juste rappeler les passages, c'est 1 Pierre 2,9. Hein. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous appelait des ténèbres à son admirable lumière. Ça résume notre identité, qui nous sommes, qui nous devons être dans le monde. Dieu a toujours voulu que son peuple soit une lumière, que son peuple amène la lumière dans le monde. Même le monde qui est perdu, eh bien nous sommes la lumière, le sel, qui devons être présents. Donc c'est le royaume du déjà, pas encore. C'est un élément du royaume que nous devons vivre dans ce monde. Deuxième passage, c'est Exode 19, qui transcrit les paroles du mont Sinaï, la création du peuple d'Israël, qui a dit « Tu seras mon peuple si tu observes mes commandements ». Les commandements qui ont été donnés sont toujours valables. Jésus les a accomplis parfaitement, mais nous aussi, nous devons les accomplir, même si ce n'est pas parfait, parce que c'est à la base de l'alliance avec Dieu. Nous sommes un peuple de l'alliance. Et Ésaïe 43 a évoqué quelque chose qui est intéressant, parce qu'il a évoqué déjà l'exil à Babylone et l'exil que nous vivons en Occident, au XXe, XXIe siècle, dans notre propre pays, dans notre propre Occident, qui était christianisé le premier, dans les premiers siècles, et qui aujourd'hui est totalement païen et déchristianisé. Ésaïe 43 déclare: J'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu, et le peuple que je me suis formé, donc l'Église que nous sommes, publiera mes louanges. Alors comment est-ce qu'on va publier ces louanges? Ça ne suffit pas de publier les louanges le dimanche matin, au culte, ou toutes les rencontres qu'on a ensemble. Il publiera ses louanges pendant l'exil. Et ce passage d'Ésaïe 43 s'est bien sûr accompli lorsque Dieu a emmené le peuple en exil à Babylone, parce qu'ils n'ont pas suivi les commandements du Sinaï de garder sa parole. Donc il les a envoyés en exil. Et ils ont vécu en Babylone. Mais nous voyons déjà que des serviteurs et des servantes fidèles, comme Daniel et ses compagnons, ont pu vivre en exil en étant des lumières et le sel à Babylone. Et Babylone, vous savez, c'est le pire qu'on puisse imaginer, c'est vraiment l'image du monde, hein, du monde déchu, du monde corrompu, etc. Et là, ils ont été des flambeaux, des témoins, dans la culture. Et c'est ça l'église missionnelle, c'est de changer la culture. Et aujourd'hui, et c'est ça que Leslie Newbegin a mis en avant dans sa réflexion dans les années 60, puisque après la guerre, il a été envoyé en mission en Inde. Et 20 ans après, quand il est revenu en Angleterre, dans son pays natal, il a observé une déchristianisation qui l'a sidéré, carrément sidéré. Il ne se reconnaissait plus dans son propre pays. Il a dit que c'est pire qu'en Inde. Et il faut reprendre tout à zéro. C'est-à-dire qu'au bout de 20 siècles de christianisme, eh bien, tout est redevenu païen. Et nous le savons, mais qu'est-ce que nous faisons pour réagir? C'est ça le problème de l'Église missionnelle et la problématique de l'Église missionnelle. Et Leslie Newbegin a dit, il faut remettre la vérité dans le public. Parce que l'Occident, avec la raison et avec la lumière, ont mis la vérité dans le privé. Vous savez, il y a cette séparation privé-public. Hein, et vous le savez très bien, vous qui travaillez dans le monde, qu'on n'a pas le droit d'exprimer sa foi dans le public. Donc c'est une évidence que vous avez, que nous avons, et que Leslie Newbegin a eu le choc quand il est revenu en Angleterre. Et donc, à partir de là, il a amené une réflexion théologique. Comment faire pour vivre en Occident l'Église qui est le sel de la terre et qui amène le royaume de Dieu? Alors il y a un autre. Alors tout ça, c'est des auteurs que vous pouvez lire hein, si vous êtes anglophile, parce que c'est pas traduit. Leslie Newbegin. Ensuite David Smith, le docteur David Smith, qui est un Écossais et qui a été complètement impliqué dans cette réflexion sur la ville centrée sur Dieu. Il écrit deux livres, un livre qui s'appelle la mission chrétienne, hein, et chercher les fondations pour une ville qui est de nouveau au Seigneur. Donc son dernier livre, c'est une théologie pour un monde urbain. Comment dans les villes, puisque maintenant aussi il y a toute. Vous savez, il y a une cinquantaine d'années encore en France, il y avait près de. Je ne sais pas combien de pourcentage de paysans. Nous avons tous un peu des racines paysannes dans nos familles. Eh bien, aujourd'hui, tout est centré dans les villes. Et les paysans, eh bien, ils ont des machines tellement performantes que quelques pourcentages de la population, ils peuvent eh bien, faire l'agriculture. Et donc, tout se concentre dans les villes. Et donc, il a toute sa vie, passé son temps à écrire sur cette proposition de la ville centrée sur Dieu. Donc c'est une réflexion qu'il faut prendre en compte, et il propose un engagement culturel. L'engagement culturel, c'est une influence de manière, la manière de fonctionner, de communiquer, de fonder la culture chrétienne comme une véritable contre-culture. C'est-à-dire, c'est une culture qui, à l'intérieur de la culture actuelle, amène les valeurs du royaume. Et cette église missionnelle n'est pas une option, elle s'impose à nous dans nos sociétés occidentales qui sommes maintenant dans cette déchristianisation qui est totale, comme le monde païen romain de l'époque de Jésus. La dernière fois, et je ne reviens pas là-dessus, je le rappelle juste, il signale qu'il faut dépasser trois frontières. C'est des frontières idéologiques, pas géographiques, puisque nous sommes à l'intérieur de notre propre culture, géographiquement ancrée au milieu de nos concitoyens, mais il nous faut, en tant qu'Église missionnelle, dépasser trois frontières idéologiques. La première frontière, c'est la sécularisation. Il a repris donc la pensée de New Begin, il l'a développée, pour montrer qu'il faut revenir dans le public. Il faut ramener l'Évangile dans le domaine public. Même si aujourd'hui c'est interdit d'en parler, on peut revenir avec la contre-culture dans le domaine public. Et donc c'est être un témoin actif, pas juste un témoin en parole, mais en acte. Et on le verra plus tard. La deuxième frontière qu'il faut dépasser, c'est la pluralisation, c'est-à-dire les vérités plurielles. Et vous le savez qu'aujourd'hui, tout le monde a sa vérité. Tout le monde revendique sa vérité. Même des opinions deviennent des vérités. Si vous exprimez une opinion, même des chrétiens aujourd'hui vont vous dire bah, « toi c'est ton opinion, moi c'est la mienne ». Il n'y a plus de vérité absolue, ce n'est plus accepté. Et même Michel a remarqué que même dans les vidéos, les gens s'excusent en permanence, même pour des trucs absolument anodins, parce qu'ils n'osent plus affirmer quoi que ce soit, parce qu'ils savent que c'est mal pris. Donc on est dans cette culture, vérité de pluralisation. Et la globalisation, bah, c'est que le monde est un petit village, hein. Moi, mon fils est parti en Australie, Charles, Sylviane, Cosme, voilà, ils partent aux États-Unis comme vous, vous partez voilà, à côté de votre village. Déjà, moi, quand j'étais à Montréal en 1972, quand j'ai fait mon service national là-bas, il y a des gens qui faisaient Montréal-New York tous les jours pour travailler à New York, voilà. Ils prenaient l'avion le matin, ils revenaient le soir, voilà, c'était... Bon, c'était le début, mais maintenant... voilà, vous partez en Chine, en n'importe où, voilà, prenez le billet, puis c'est parti. Maintenant, vous allez même aller prendre la fusée, vous voyez, puisque maintenant, les voyageurs peuvent passer vraiment au-delà de l'espace, au-delà de 100 km. Donc, on est dans une globalisation. Et aujourd'hui, autour de nous, il y a un mélange de cultures. Regardez ici, dans notre église, il y a un mélange de cultures. La culture de la Guadeloupe, Martinique, d'Afrique, de la Corée, Amérique du Sud, voilà, bon. J'ai oublié personne, voilà, Angleterre, voilà. On est dans des cultures, et mon voisin, il fait partie d'une autre culture. Et ces cultures ne sont pas égales, hein. Ils n'ont pas... Hein. Vous voyez bien que les cultures actuellement, je pense juste des gens qui viennent Martinique et Guadeloupe, ils n'ont pas de problème avec le privé public. Vous pouvez leur parler de Dieu sans qu'ils regardent leurs chaussures. Voilà, parce qu'ils ont été habitués, même dans leur pays, eh bien, à ce que la foi peut être débattue. En France, c'est plus la peine d'essayer. Hein. Les gens vont être polis parce qu'ils ont appris à être polis, mais ils vont regarder leurs chaussures pour vous faire comprendre que ce serait bien de changer, enfin, si encore c'est les plus polis, hein, de changer de discours, même si vous êtes dans une réception, que ce soit un mariage ou autre, etc. Non, ce n'est plus possible. Et donc, toutes ces cultures sont autour de nous. Et comment est-ce qu'on fait pour évangéliser. Et c'est ça le thème de cette réflexion. Alors, Timothy Keller, comme je viens de l'indiquer, dans son livre « Une église centrée sur l'évangile », en parle et apporte ses réponses. Il a créé d'ailleurs The Gospel Coalition, c'est la coalition, je ne sais pas comment on appelle ça, l'Alliance pour l'Évangile. Et Évangile 21, c'est comment évangéliser le 21e siècle, qui en France est porté par aussi un mouvement qui est très actif. Et je vous encourage à regarder sur Internet, ils ont beaucoup de ressources qui sont théologiquement fondées. Et ce livre, il parle des principes de base de l'Église missionnelle centrée sur l'Évangile, dans notre culture. L'autre que j'ai découvert cette semaine, qui est vraiment aussi centré là-dessus, c'est Darrell Gooder. C'est un Allemand qui est de Hambourg, mais qui vit aux États-Unis, qui est un théologien missiologiste émérite de Princeton aux USA et chercheur principal à St. Andrew's Hall de l'Université de Colombie-Britannique. Il a reçu un prix, un des plus grands prix en théologie sur ses travaux. Et son livre s'appelle Missional Church, être une église missionnelle. Et lui, il a complété l'ensemble de ses réflexions. New Begin date maintenant il y a 50 ans. David Smith, c'est plus récent. Et lui, il est actuellement dans cette dynamique. Et il pose les bases de l'église missionnelle contemporaine. Vous savez, ce qui se passe, c'est assez grave. Quand je parle de l'Occident, je ne parle pas que de la France, de l'Europe, mais aussi des États-Unis. Aux États-Unis, hier, j'ai vu un peu ce qui se passe dans la Fédération Baptiste du Sud, qui sont la dénomination la plus importante protestante aux États-Unis. Ils sont 18 millions, je crois, 18 millions. Mais ils viennent de perdre plus de 2 millions de fidèles, et parmi les jeunes en particulier. Et ils sont en train d'en perdre tous les jours. Il y a des grands théologiens qui quittent ce mouvement, tout simplement parce qu'il y a un mélange avec le culte païen du trumpisme et de son engagement politique, qui est du racisme, il y a beaucoup de racisme dans les leaders de South Baptist Church, misogyne, du white suprémacisme blanc. Donc en fait, l'esclavagisme du Sud, qui est principalement porté par les baptistes du Sud, eh bien, est encore présent. Ils n'ont pas tourné la page de l'esclavagisme. Et d'ailleurs, au Capitole, quand il y a eu les drapeaux des confédérés, c'est bien la preuve que c'est toujours actif et qu'il y en a qui militent toujours pour garder l'esclavagisme. Et donc on est dans un temps où les chrétiens sont influencés par le monde, et tellement influencés qu'ils adoptent les valeurs du monde. Et les abus sexuels sont très nombreux. Il y a près de 700 abus sexuels dans l'Église baptiste qui n'ont pas été dévoilés, et même l'Église catholique a eu le courage de le faire, et même les dirigeants, eh bien, ils ont étouffé tout cela, même en faisant souffrir les victimes. Et donc l'Église doit se réformer. L'Église occidentale doit se réformer et découvrir les moyens nouveaux de s'impliquer dans la culture pour être témoin du royaume. En Bergenville, en 1990, donc quand on est venu ici pour acheter ce bâtiment, on voulait, nous impliquer dans la ville. Michel et moi, on est des évangélistes, disons, d'origine. On s'est rencontrés à Paris dans ce cadre-là. Et on voulait évangéliser. Et en fait, on ne pouvait pas vraiment en tant qu'Église, parce que tous les éléments de la culture ont été pris, étaient prises. Parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là, la ville de Bergenville était la plus riche de France, par tête d'habitant, grâce aux revenus des taxes de Renault. Et donc, tout était gratuit, tout était pris, tout était financé, etc. On n'a pas pu, et puis, de toute façon, on a eu d'autres chats à fouetter, je dirais, pour établir l'Église, puisque l'ennemi ne voulait pas qu'on s'établisse ici. Donc, Mais aujourd'hui, 2021, je m'aperçois que Dieu pousse l'Église ici. Maintenant, les fondations sont terminées. pousse l'Église à entrer dans une dynamique missionnelle. C'est une nouvelle approche de la mission. Je voudrais compléter ce que j'ai dit dans le message du dimanche dernier, parce que je peux me répéter, avec quatre approches missionnelles de David Guder qui montrent qu'on peut. Parce que en 1960, quand Leslie Newbegin a apporté cet éclairage missionnel, les églises évangéliques n'étaient pas du tout là-dedans. Pas du tout, du tout, du tout. C'était les églises traditionnelles, donc luthériennes, anglicane, réformée, qui était confrontée à cette réflexion. Donc, plus ou moins les chrétiens libéraux. Et en fait, cette notion d'église missionnelle a pris forme dans les années 90 pour les évangéliques, beaucoup plus tard, quand les évangéliques sont enfin aperçus que l'évangélisation ne marche plus. Et vous savez que ça ne marche plus, puisque on est tous confrontés à ce problème culturel de la raison en Occident et du postmodernisme qui est encore pire, puisque on a parlé longuement avec Luc Bussière. Donc, le problème des évangéliques, c'est que c'est parti tous azimuts. C'est-à-dire que la notion d'église missionnelle a pris des multiformes, des interprétations différentes, qui ne sont pas du tout véritablement l'esprit dans lequel il faut comprendre l'Église missionnelle. Donc, Guder, justement, évoque ces quatre éléments, mais ils sont beaucoup plus multiformes que ça, pour montrer comment l'Église missionnelle devrait être et comment nous devrions être, comment nous devrions nous positionner. La première, c'est être engagé dans l'évangélisation. Bon. Alors, être engagé dans l'évangélisation, c'est un terme missionnel synonyme d'implication forte dans l'évangélisation. Là, Michel Gauthier n'est pas là ce matin, mais très souvent, il porte auprès de vous, auprès de nous, le témoignage de, voilà, de donner l'évangile hein, sous forme de petits bleus ou de petits blancs, dès qu'il peut, au moins une fois par semaine, voire une fois par jour. Et donc, ça, bien sûr, ça, c'est toujours à faire, puisque c'est la parole qui est distribuée. Ce n'est pas mauvais en soi, au contraire, mais ce n'est pas la réponse pour la déchristianisation de la société occidentale avec une culture post-moderne. Parce qu'il faut faire de l'évangélisation avec plus d'ingéniosité et de diligence qu'auparavant, à cause de notre culture. La théologie sous-jacente donc de cette évangélisation directe de l'évangile est classique, à savoir la mission est d'amener les gens au salut par l'Église. L'Église, les chrétiens amènent les gens au salut. Mais il manque quelque chose à l'appel. Premièrement, l'œuvre de l'Esprit de Dieu en vue de la restauration de la création. Il n'y a pas que, comme je disais tout à l'heure, la rédemption de l'humanité, mais la rédemption de la création. Donc, oublier cela, eh bien, c'est justement mettre de côté toute une préoccupation aujourd'hui, qui est le réchauffement climatique et autres, etc., qui fait partie de notre devenir aussi, et notre avenir pour nos enfants. L'oublier, c'est mépriser un peu ce que nous sommes aussi au niveau humain. La deuxième chose qui manque à l'appel, c'est la conscience que l'Église est captive de la culture du monde. Je l'évoquais tout à l'heure avec les églises baptistes, mais c'est vrai avec tout le monde. C'est assez dramatique de voir comment l'Église est captive de la culture. Nous sommes tous captifs de la culture. Moi, je le sais parce que avec Michel, on réfléchit depuis qu'on se connaît sur les aspects culturels dans l'IFES, les GBU, etc. On a cette réflexion depuis longtemps avec tout ce que ça comporte. Et on le voit. Et on le voit, vous êtes tous captifs de votre culture. C'est normal. Mais il faut en prendre conscience et savoir où on est captif. C'est un peu comme la maison d'Élie. Il faut voir les fruits et ensuite, après, y remédier. Donc ça, c'est la première conception de l'Église missionnelle, c'est faire plus d'évangélisation. La deuxième approche missionnelle, c'est d'être incarnationnel. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'Église veut être attractionnelle. attractionner, il faut attirer les gens. Donc comment on les attire? Bah, on fait des cultes avec des concerts, avec de la fumée, avec toutes sortes de choses. On met les églises dans le noir pour que, voilà, comme ça ressemble comme une boîte de nuit, etc. Et ça, les églises se copient les unes des autres. Il faut être attractionnel. On veut que les non-chrétiens soient présents ou invités dans les programmes de l'église, à des actions, à des événements. Ces personnes viennent assister à des réunions, ce baptême, mariage, concert, enterrement, etc. Mais être incarnationnel, c'est créer une communauté forte et soudée en s'impliquant profondément dans la vie municipale, collective, du quartier, de la ville, de la communauté urbaine. Voyez-vous, ce n'est pas rester dans l'église et attendre que les gens viennent, c'est d'aller dans le monde pour apporter ce sel et cette lumière dans le monde. Vous savez qu'il suffit de quelques familles chrétiennes dans un quartier qui participent pleinement à des activités et découvrent le besoin des citoyens, parce qu'il faut écouter ceux qui nous entourent, et commencent à entrer en contact avec eux au nom du Christ. Sans forcément proclamer le nom du Christ, mais au nom du Christ, on y va. La communauté chrétienne grandit en incluant progressivement les non-chrétiens qui travaillaient déjà. Il y en a qui travaillent pour la paix et la justice, sans qu'ils soient chrétiens. Voilà. Eh bien, vous pouvez les gagner et les aider à mettre du sens à ce qu'ils font déjà. Donc ça, c'est être incarnationnel, c'est d'être dans la chair, présent dans la culture actuelle. Et il y en a de plus en plus dans l'Église qui le font. Hein, donc je ne dis pas ça parce que l'Église ne le fait pas. J'explique ce que c'est que l'Église missionnelle. La troisième qu'il évoque, Goudert, c'est être contextuel. Ça veut dire quoi, être contextuel? Eh bien, l'Église, comme je l'ai dit, est entrée dans la captivité culturelle. C'est-à-dire qu'elle a absorbé l'Église, les chrétiens, ont absorbé les manières de vivre de la culture du monde. Alors, il n'y a pas que les iPhones, les iPads, les machins, ben, c'est les moyens. Mais tout ce qui est dedans, c'est capté par les chrétiens. Qu'on le veuille ou pas, le monde influence notre manière d'être et notre manière de faire. Du coup, l'Église qui s'implique dans la société, qui n'est pas contextuelle, eh bien, va créer une sous-culture évangélique. Et c'est ça qu'on aperçoit dans les églises. Et c'est pour ça que les églises n'ont plus, les églises évangéliques n'ont plus d'impact, puisque c'est une sous-culture. Donc la sous-culture, on les laisse. On les laisse dans les églises, on les parque dans le privé, etc. Voilà, c'est une sous-culture. Elle ne fait pas partie de la culture qui impacte une autre culture avec des nouvelles valeurs. Et on n'entre pas vraiment en contact avec cette société post-chrétienne qu'on veut évangéliser. Donc être une vraie église missionnelle suppose une réflexion. Déjà, il faut s'asseoir, réfléchir. Une réflexion approfondie sur notre culture. Pourquoi est-ce que dans notre culture, il y a des dérives, comment, etc. Et la découverte des moyens de communication originaux qui permettent de communiquer, les pratiques nouvelles dans l'Église, qui s'adaptent à la culture, tout en la remettant en question. Voyez-vous, c'est un travail de pédagogie, c'est un travail de réflexion. Et c'est à cela que nous sommes appelés si nous voulons être une Église missionnelle. Alors, la quatrième approche qu'il évoque, c'est être dans la réciprocité. Alors, cette approche, qui est effectivement celle qu'il préconise d'une église missionnelle, c'est approuver les trois premières. Il n'y a pas de problème de les approuver, elles sont très bonnes. Mais il défend l'idée d'une église bien plus impliquée concrètement dans la vie de la collectivité. Et il pense qu'il faut revisiter à la fois notre théologie et à la fois nos pratiques. Il arrive à deux conclusions. La première, c'est que si Dieu est en mission, l'Église ne doit pas pratiquer la mission par des méthodes visant à attirer les gens au culte, mais elle doit être sensible à ce que Dieu fait déjà dans le monde. Si nous croyons que Dieu est tout-puissant, vous le croyez, on l'a chanté ce matin, si nous croyons que Dieu est à l'œuvre, parce qu'il est au-dessus de Satan, même si Satan est le prince de ce monde, eh bien, qu'est-ce que nous attendons pour regarder ce que Dieu fait? Et vous, c'est ça la question de l'Église missionnaire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans le négativisme, hein, et dans, ouais, c'est les anti. Alors, anti-ceci, anti-cela, anti-ceci, anti-cela, anti-cela. Mais dans la proposition, il faut qu'on soit des proposants. Pas de ceux qui critiquent, mais de ceux qui proposent. Voyez-vous ? C'est ça, l'Église missionnaire. Qu'est-ce que nous proposons à nos concitoyens pour avoir du sens ? Et du sens, parce que si nous croyons que le royaume de Dieu est quelque chose de formidable, mais qu'est-ce que nous attendons pour proposer des choses au lieu de critiquer ? Voyez ? D'ailleurs, c'est comme ça que commence le livre que j'ai commencé, que je vais reprendre, sur la théologie de l'ADE. Page 26, je crois, il y a un évangélique très, très connu qui disait que si les évangéliques, c'était dans les années 80, si les évangéliques ne développent pas une théologie spécifique aux évangéliques, parce qu'ils sont toujours en train de critiquer les autres théologies. Théologie, c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Mais s'ils ne développent pas leur théologie, bah, l'évangélisme n'existera plus. Et c'est en partie vrai. Vous voyez que l'Église évangélique, elle disparaît. Ça ne veut pas dire que les églises ne se remplissent pas, mais ça c'est autre chose. Hein. Croissance de l'Église par les masses, c'est autre chose. Mais l'Église évangélique n'a plus d'écoute dans le monde parce qu'elle n'est pas pertinente dans sa société. Et c'est ça le problème. Donc si nous croyons que Dieu est en mission, et c'est ça l'Église missionnelle, si nous croyons que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, décrit la rédemption de la création, de l'homme et de la nature et tout ce qui se passe, puisqu'on sait que ça se terminera par une recréation totale de la création. Si nous croyons que Dieu est en mission, que c'est cette mission de rédemption, eh bien, l'Église missionnelle, elle entre dans sa mission. Elle ne fait pas une mission à part. Vous voyez ? Elle ne crée pas un élément missionnaire, on va aller en Afrique, on va aller en Australie, machin, etc. Non, non, on va évangéliser notre société, dans notre temps, notre génération et nos voisins, voyez-vous ? Dans une société païenne, qui est plus que païenne, puisqu'elle ne croit même plus en Dieu, voyez-vous ? Agnostique. C'est ça le défi que nous avons. Et donc, si nous croyons que Dieu est en mission, si nous croyons ça, il y en a qui croient ici que Dieu est en mission ? Que Dieu est dans cette mission ? Alors tout le monde ne croit pas, hein ? Non. Enfin, il ne lève pas la main. Mais moi, je crois que Dieu est en mission. Et c'est Leslie Newbegin qui a parlé justement de Missio Dei. Vous savez, souvent, quand on veut être un peu universel, on utilise le latin. Donc la Missio Dei, Dieu est en mission, l'Église missionnelle rentre dans cette mission, à son niveau, dans le temps, sur quelques années, le temps qu'on vit ici-bas, et géographiquement, ce qu'on peut toucher autour de nous. Mais Dieu est en mission sur la planète entière, sur la création entière, sur l'univers tout entier, et dans l'éternité, de la Genèse à l'Apocalypse, du début à la fin. C'est ça l'Église missionnaire. C'est une nouvelle vision de la mission que Dieu a commencée et dans laquelle il a envoyé Jésus. Jésus, c'est le centre de cette histoire de rédemption. Il a tout racheté. Et donc, à ce moment-là, la mission ne devient plus une nécessité missionnaire, mais ça devient un mode de vie. Je suis missionnaire comme Jésus est missionnaire dans ce monde. Je suis missionnaire avec lui. Donc c'est une autre façon, c'est ce qu'on appelle une vision du monde, un paradis, qui change complètement la donne. Ce qui fait que je me comporterai différemment dans toutes les situations. Et si je suis dans cette optique, si je fais une mission, ok, bon, moi, je fais au travail, je fais une mission, à l'église, je fais une mission, ou le dimanche après-midi, je fais une mission parce que l'église m'entraîne à faire de l'évangélisation, etc. Voilà. Mais si je suis missionnel, je veux dire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quel endroit où je suis, je participe à la mission de Dieu. Je rentre dans ce que Dieu est en train de faire. Et là, le regard change. Quand on est, et c'est la proposition de ce théologien qui a réfléchi à ça, on rentre dans une façon de voir les choses différemment. Par exemple, dans un quartier, ou dans cette ville, ceux qui habitent cette ville, ou voilà, eh bien, ils vont se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment? Alors, voyez-vous, moi, je me suis posé cette question depuis des années, parce que je suis un peu orienté dans ce sens-là. Et c'est pour ça que j'ai compris quelle est la mission de cette église. La mission de cette église, c'est d'être un centre de rayonnement pour ce Grand Paris Seine-et-Oise. Ce n'est pas du tout un hasard, imaginez. Enfin, pour moi, je le vois comme ça, c'est mes yeux qui voient ça, que le centre administratif de Seine-et-Oise, c'est à Élisabethville, c'est juste à côté, c'est à quelques encablures. Ce n'est pas un hasard que Dieu nous ait donné ce local, et je peux vous dire que c'est Dieu qui l'a donné, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, juste à côté. Ce n'est pas un hasard. Non. Moi, je ne crois pas au hasard. Si vous le croyez, c'est votre problème, mais moi je ne crois pas. Donc ça veut dire qu'il faut chercher l'intention de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut faire avec une église, avec des chrétiens qui veulent être disponibles à le faire, et rentrer dans ce que Dieu fait. Rentrer dans ce que Dieu fait dans votre quartier, rentrer dans ce que Dieu fait dans votre ville. Là je parle de l'église, mais vous, vous êtes dans d'autres villes, etc. Faites ça. Et là c'est le regard qui va changer. Et là vous allez vous impliquer autrement. L'Église est prête à être surprise par les intentions de Dieu. L'Église écoute, elle discerne ce que Dieu est en train de faire, et ensuite elle s'implique. S'implique. Pas elle regarde. Elle ne regarde pas à passer les vaches, hein, ou les trains. Non, elle s'implique. La deuxième conclusion que David Durrell propose, c'est que l'Église doit redéfinir le péché. On parle du péché, mais ça fait fuir tout le monde quand vous parlez du péché. Vous renvoyez au Moyen Âge, etc. Donc il faut redéfinir le péché, la mission, le salut, en termes sociaux et communautaires. Le péché n'est pas seulement l'offense d'un Dieu saint, mais c'est la violation du shalom de Dieu. Le shalom, c'est plus que la paix. C'est l'ordre, la sécurité, c'est la prospérité. C'est le shalom, c'est ce que Dieu veut faire et ce qu'il fait. C'est le shalom. Il faut rentrer dans le shalom de Dieu, dans le monde. Et donc, c'est la violation du shalom par l'égoïsme, la violence, l'injustice, l'orgueil, etc. Et la croix est aussi l'endroit et le moment où les puissances du monde fondent sur Jésus. Mais elles sont vaincues. Donc on est aussi dans le combat spirituel. Alors la mission, c'est d'intégrer les gens dans une nouvelle communauté, l'Église, qui s'associe à Dieu pour la rédemption des structures sociales et la guérison du monde. Il ne faut pas confondre l'approche missionnelle avec l'approche dominionniste, qui consiste à prendre les commandes de la culture du monde pour la rechristianiser. Ça, c'est quelque chose qui est catastrophique, que l'Église catholique a vu pendant des siècles amener des catastrophes. Ces dernières approches conduisent à discréditer encore davantage le christianisme et à le déchristianiser de manière encore plus rapide. Non, l'approche missionnelle nécessite une réflexion approfondie pour pouvoir intelligemment proposer une voie alternative. En tant qu'Église, grâce à la mise en pratique des valeurs du royaume, et ceci dans tous les domaines de la culture de ce monde. Je rappelle que Luc Bussière, là aussi, n'est pas venu par hasard, il y a un an et demi, il nous a conduit à produire une réflexion sur l'éducation pour effectivement être prêt dans ce monde postmoderne. Moi, j'ai voulu lancer des assises, et il y a eu le corona, bien sûr, qui nous a arrêtés, mais on va le reprendre. Des assises, ce sont des éléments de fondation pour réfléchir à l'éducation. Comment est-ce que nous, on peut infiltrer dans les domaines de l'éducation eh bien, les valeurs du royaume. Ce sera le cas sur le plan économique avec la création de la coopérative que va diriger notre sœur Maggie. Alors, je termine par un scoop sur ce que le Seigneur m'a montré et qui va être ma prochaine mission. La mission opérationnelle va être entièrement donnée à Pierre-André, mais moi j'ai une autre mission avec vous. C'est comment être missionnel aujourd'hui dans notre communauté du Grand Paris sénéoise, dans notre culture postmoderne. Et en fait, je vois qu'il n'y a pas de hasard, puisque si je mets devant vous cette plus grande communauté urbaine de France, hein, qui comprend plus de 413 000, parce qu'après les communautés urbaines, il y a les métropoles. Hein. On n'est pas une métropole, on est une communauté urbaine. C'est la plus grande de France, la plus importante. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le centre administratif se retrouve exactement au même endroit que notre Église. Cherchez l'erreur, il n'y en a pas, c'est que Dieu a une intention. Ensuite, l'association qui va être créée, qui s'appellera Concourance, est un GPID en Seine-et-Oise, c'est-à-dire un grand pari d'innovation durable en Seine-et-Oise. C'est quelque chose qui va marquer cette région. C'est une génération de projets intentionnels et dynamiques. Donc c'est une association qu'on va créer, loi 1901, qui laisse le Saint-Esprit agir dans la vie, parce que l'aspect dynamique, c'est dynamos, c'est le Saint-Esprit, qui va conduire tous ces projets, parce que nous allons compter sur lui. Ensuite, les domaines de culture qui seront concernés, c'est l'économie sociale et solidaire, qui va amener à la création d'une coopérative. C'est le social, le médico-social, l'éducation, la culture, l'humanitaire, etc. Vous voyez, ça touchera tous les domaines de la culture dans ce grand Paris Seine-et-Oise. Autrement, montré autrement, c'est que cette association Concourance, ce qui s'appelle le grand projet d'intérêt durable, eh bien, va amener à créer à chaque fois des structures qui vont impacter la culture. Alors, il y a déjà la Gerbe, hein, ils ne nous ont pas attendu d'avoir une vision missionnelle dans le domaine humanitaire et social, et on est partenaire de la Gerbe, et Marie-France, entre autres, qui travaille pratiquement tous les jours avec son mari, et bien d'autres dans l'Église. Nous avons compris l'intérêt de cette structure de réinsertion humanitaire et sociale dirigée par Jean-Marc Sémoulin. Le deuxième projet, donc on s'associe pleinement à ce projet, hein, on ne va pas le recréer puisqu'il existe, mais on s'associe dans cette association. Deuxième, c'est la CAE, coopérative d'entrepreneurs salariés, qui sera dirigée par Maggie Molza. Mais il y a le médico-social, hein, qui est en lien avec la Finis ASIC, c'est aussi un organisme chrétien qui réfléchit l'impact dans le médico-social, la culture, création de comme on avait voulu faire à un moment donné aussi avant le Covid, des cultures spécifiques qui passent des messages chrétiens. Vous voyez, l'association, par exemple, je lis sur le site web quelle est leur vision, c'est l'action centrée sur la personne. Et ça, c'est l'élément missionnel, c'est centré sur la personne, qui s'appuie sur la dynamique que crée le regard, l'accueil, l'écoute, la conviction que chacun peut élaborer lui-même ses solutions s'il est soutenu. Donc c'est accompagner les gens, voyez, c'est pas faire à leur place. Nous offrons à tous la possibilité d'avoir accès à la défense de ses droits et invitons à entrer dans la fraternité. Ces objectifs impliquent un travail en réseau avec des acteurs sociaux de proximité ainsi que la participation de salariés, de bénévoles. Les bénéficiaires influent sur l'évolution de nos projets. La foi chrétienne est le fondement de notre démarche. Elle se vit dans le respect des convictions de chacun. L'association Concourance va, dans ses statuts, établir que la foi chrétienne est le fondement de notre démarche. C'est-à-dire que ce sera public. Voyez-vous ? C'est comme ça que le privé devient public. C'est-à-dire que on se manifeste par notre crédibilité. Et je peux vous dire que la gerbe est crédible. Je sais que quand j'étais à... Je ne sais pas ce que c'était comme fête, quand j'étais, il y avait tout. Des 10 ans. Et la mère, je sais, le maire de la d'Écuville, il disait, moi, c'est la gerbe, elle a fait des éloges, tout le monde a fait des éloges, tous les gens des représentants étatiques, hein, que ce soit la région ou autre, j'étais abasourdi, ils ont dit, ça, c'est un, comme quand ils ont dit, un modèle. Si, un modèle, nous, on amène les gens ici pour montrer comment on s'occupe du humanitaire. Voilà. Oui, là, c'est une crédibilité de la part des chrétiens dans le monde humanitaire et social. Donc, on visualise déjà dans la région ce que nous pourrons faire dans d'autres domaines. Hein? Voilà. Alors, cette association porteuse de projets missionnels concurrence, c'est une création d'une structure porteuse de projets qui impactera la communauté urbaine sénéoise avec les valeurs du royaume. Elle veut être une véritable pépinière de projets pour créer une contre-culture. Cette association, loi 1901, sera composée de chrétiens des églises de la région. Donc c'est toutes les églises de la région qui sont impactées entre Conflans jusqu'à Vernon, enfin au-delà de tout ce GPSO. Et elle cherche à accorder à Jésus la centralité qui lui revient dans tous les domaines de la vie culturelle pour être sel et lumière au sein du GPSO. Un des projets immédiats se trouvait être la coopérative d'activité et d'emploi dirigée par Maggie, en lien étroit avec Coop Connexion de Lens, qui ont devancé largement en France, en tout cas, dans cette création de coopératives à valeur chrétienne, et basée sur, en particulier, tous les enseignements de l'Ancien Testament sur le jubilé. Cette CAE a pour ambition de créer des emplois accessibles à chacun et développer une économie sociale et solidaire dans le GPSO. Le hasard n'existe pas, en tout cas pas pour moi. J'ai découvert cette semaine aussi sur Internet qu'en fait le CNEF, a les mêmes ambitions. Le CNEF. Celui auquel on est affilié, donc les évangéliques de France. Et en fait, si nous, on fait une association concurrence d'un grand projet d'intérêt durable, eh bien, depuis 6 mois, le CNEF a créé une fondation qui s'appelle Oikonomia, qui est exactement l'équivalent d'une association, sauf que c'est une fondation, projet d'intérêt général. Donc, reconnu au plus haut niveau de l'État, pour être un projet d'intérêt général, il faut plus d'1,5 million d'euros pour accéder à ça. Il y a une fondation, c'est une autre structure que l'association, mais c'est les mêmes buts. Donc, vous voyez, je crois qu'on est dans un temps où Dieu parle. Où Dieu parle, Dieu nous parle, Dieu nous appelle. Et s'il a appelé selon... Parce que vous avez compté sur le Saint-Esprit pour écrire cette vision. C'est que vous avez prié. Vous ne pouvez pas vous renier que le Saint-Esprit a conduit. Bon, si Dieu a conduit à cet appel missionnel, qu'est-ce que nous faisons pour y répondre? C'est la question que je pose. Est-ce que nous sommes cohérents avec ce que Dieu a dit et ce que nous allons faire? Donc, moi, je me propose pour conduire ce projet. Donc je ne serai pas à la retraite, vous voyez, je pensais l'être, mais je le ferai avec toutes les églises de la région, avec toutes les responsables de la région. Et même la cause là, va changer de direction, mais avec des évangéliques aussi très très engagés. Donc le Seigneur met autour de nous des gens très engagés sur le plan théologique et toute la fac de Vaud qui sera avec nous. Toute la faculté de Vaud qui sera là, qui participera. Je ferai venir Daniel Lichty, qui est spécialiste, qui habite à Vaud-sur-Seine, qui est spécialiste de l'église missionnelle en France et en francophonie, etc. Et on fera des assises pour que notre église puisse participer pleinement à ce projet. Ceci étant, vous êtes tout à fait libre hein, de continuer voilà, l'église qui est ici, sous la direction de Pierre-André. Mais je propose que vous alliez plus loin, en fonction de vos besoins. Vous pouvez très bien rester dans l'église sans participer, c'est pas un problème. Mais si vous voulez participer à un projet qui vraiment, comme les jeunes disent, déchire, hein, je veux dire, qui, eh bien, voilà, c'est une proposition que je vous propose de participer, de prendre le train qui va démarrer certainement à la rentrée, parce que je vais pas trop attendre pour démarrer ça. Mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on rentre dans la mission que Dieu est en train de faire dans tout l'univers. Et c'est un privilège de participer à cette mission. C'est un privilège. Vous voyez, c'est pas un travail, c'est un privilège. Et on contrôle sur le Saint-Esprit pour faire le reste. Mais nous voulons gagner cette culture à l'Évangile. Nous ne voulons pas rester les bras croisés, en train de critiquer sans arrêt. C'est déprimant de critiquer, vous voyez. C'est déprimant d'être anti-ceci, anti-cela, anti-ceci, anti-cela. Soyons positifs, mes amis. Soyons positifs. Soyons engagés dans nos structures, dans ceux qui nous entourent. Ils n'attendent que cela. Ils ne savent pas, ils sont perdus. Mais le christianisme va revenir parce qu'il est là, il est présent, il a été semé pendant des siècles. Donc c'est à nous de le faire revivre. Amen. Amen. Je crois que nous pouvons être des Daniels dans notre société, des Daniels, qui remontons le défi. Et là, c'est un grand défi, un grand pari pour avoir des projets innovants, des projets durables. J'ai utilisé le mot durable parce que bah, ça fait très in, hein, mais c'est plus que durable parce que c'est éternel. J'aurais pu utiliser éternel, hein, parce que ça vient de Dieu. Amen. Et je suis très content qu'on puisse faire ça avec Hoche aussi. Hein. Hoche, ils ont exactement la même vision. J'ai écouté un message donné il y a 3 semaines par Xavier. Il aurait pu le donner ici, c'était le même. Hein. Présenté différemment, vous pouvez l'écouter, je crois que c'est le 11 juillet, qu'il a donné à Hoche. Pareil, c'est un engagement dans la société, dans notre société. Et vous savez, les jeunes, là il y a pas mal de jeunes, ben, on va les gagner à l'église. Parce que sinon, ils vont quitter l'église. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans une église qui vient chanter des cantiques, repartir et tout ça? Bon, ben, c'est pas mal. Mais ça changera rien à notre société déchristianisée. Ça changera rien. Mais non, ils viendront pas. Si nous attendons qu'ils viennent, mais vous pouvez attendre longtemps. Hein. Mais allons les voir là où ils sont. Et commencez-vous déjà à vous impliquer dans votre quartier, dans votre ville, etc. N'attendez pas à ce que l'Église fasse tout ça. Hein. L'Église missionnelle, c'est chacun là où vous êtes, vous vous engagez. Et vous faites ce que Dieu vous montre. Et faites à l'écoute, priez, demandez le discernement. Il va vous montrer ce que Dieu fait. Si vous croyez que Dieu est à l'œuvre, mais vous allez le voir autour de vous. Eh bien, vous rentrez dans ses œuvres missionnelles et vous allez voir des changements. Amen. C'est ce que je souhaite à l'Église, c'est ce que je souhaite que nous puissions vivre ensemble et on va prier. Seigneur, nous croyons que le temps est venu, Seigneur, où tu nous appelles à sortir de nos conforts, de nos attentes, que les autres viennent vers nous, alors que nous devons aller vers eux, Seigneur. Comme toi, tu es allé chez Zachée, tu es allé, Seigneur, vers la prostituée, tu es allé dans tous les endroits, Seigneur, bien sûr, qu'on t'a critiqué. Bien sûr, Seigneur, que les gens religieux n'ont pas supporté ton attitude. Mais Seigneur, tu nous demandes à nous aussi de faire pareil, de nous impliquer, d'aller là où effectivement l'Évangile a besoin d'être entendu et surtout d'être vu. Et qui nous demande pourquoi on fait ça, comme Jésus, pourquoi tu permets à la prostituée d'essuyer tes pieds, etc. Et Jésus répondons simplement à des personnes qui vont nous demander pourquoi on fait ça ou pourquoi on fait ça, au lieu de les assommer avec des paroles, que nous soyons des témoins. Seigneur, merci de nous aider et de nous donner ce privilège de pouvoir entrer dans ta mission et de pouvoir être leader dans cette association qui va élaborer des projets de contre-culture qui portent les valeurs du royaume. Seigneur, nous te remercions et nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.